Le sujet proposé est extrêmement vaste. Et on peut dire énormément de choses sur la méditation de la parole. D'autant plus qu'il s'agit là de quelque chose d'extrêmement personnel et qu'il y a donc l'expérience de chacun. Et nous la vivons différemment. Alors ce que je vais faire, eh bien, c'est simplement vous donner quelques réflexions. Et pour pouvoir les classer, pour pouvoir vous présenter ça selon le schéma classique des trois points, eh bien, tout bêtement, je me suis servi d'un plan très facile. Je suis parti de la Trinité, du plan trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous verrez d'ailleurs que on peut mettre des choses dans l'un ou dans l'autre tiroir. Hein, ça. Mais si, à première vue, ce plan trinitaire peut paraître une simple commodité, je crois que c'est plus que cela. Car qu'est-ce que la Trinité, sinon l'affirmation fondamentale que Dieu est un Dieu de relation. Je crois que c'est cela l'originalité de la doctrine chrétienne en face des autres monothéismes, c'est que le monothéisme chrétien est un monothéisme relationnel. Et en abordant la question de la méditation, je crois que nous sommes en plein dans le sujet. Parce qu'en effet, lorsqu'on évoque la méditation de la parole, la méditation de la Bible, alors qu'est-ce qu'on voit tout de suite ? Quelqu'un qui ouvre sa Bible, un grand silence, une grande solitude. Alors c'est vrai qu'il y a une solitude de la méditation de la Bible. Il y a une solitude tout simplement parce que c'est quelque chose de très personnel et que l'on ne peut pas vivre à la place de quelqu'un d'autre. Mais lorsque je dis, premier point, que la parole que je médite est la parole du Père, eh bien, je commence tout simplement par dire que je ne suis pas seul en face d'un objet qui serait la Bible. Non, la Bible n'est pas un objet. Lorsque je médite l'Écriture, je suis dans une relation avec le Père. Cela donc signifie que je me trouve engagé dans un processus de compréhension, qu'il y a pas simplement donc l'homme tout seul en face de quelque chose qu'il essaye de disséquer, qu'il essaye de maîtriser, qu'il essaye de dominer, de comprendre, mais qu'en fait, je suis en face de quelqu'un qui me parle. Et dire que la Bible est la Bible du Père signifie que ce n'est pas ma Bible, que ce n'est pas ma prétention de dominer, d'examiner, d'utiliser ma raison, ma logique, mais que la Bible, c'est la Bible du Père. Les théologiens, quand ils parlent de la Trinité, lorsqu'ils essayent de réfléchir sur ce qu'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils essaient un petit peu de clarifier les idées, et alors ils parlent du Père comme étant la cause, l'origine de toute chose, hein? Alors, qu'est-ce que ça signifie tout simplement ? Ça signifie que la Bible, c'est une évidence que je vous dis, hein, mais enfin, il faut toujours s'en rappeler que la Bible, c'est la Bible de Dieu. Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas moi qui possède la Bible. C'est Dieu qui la possède. C'est sa parole à lui. Et dans cette relation, dans cet état de méditation, il nous faut sans cesse faire une sorte de révolution copernicienne de la foi, c'est-à-dire non pas partir de nous, de nos sentiments, de notre psychologie, de nos questions, mais toujours nous dire, à travers ce livre, c'est Dieu qui veut établir une relation avec moi. C'est le Père qui veut me parler. Donc, ça signifie que je dois avoir une attitude d'humilité. C'est accepter une relation dans laquelle je reconnais qu'en fin de compte, je ne suis ni le maître, ni le sujet de cette relation, mais que le maître en est Dieu. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça signifie que de recevoir la Bible comme la Bible du Père ? Qu'est-ce que c'est que le Père dans la Bible ? Bon. Là, nous sommes complètement intoxiqués par tout un contexte idéologique actuel dans lequel, vous savez, il a fallu assassiner le Père. Le Père, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, etc. Alors là, ça a été la grande vague de 68, mais enfin, on n'en est pas quand même tout à fait sorti. Hein. Alors, vous savez, on l'a assassiné, le Père, hein, sous toutes les coutures. Bon. Et... Parce que, finalement, là, le brave tonton Freud, il nous a joué des tours. Hein. Parce que le dieu de Freud, c'est le dieu terroriste. Hein. Or, si vous lisez la Bible, quand il est question du Père dans la Bible, et pas simplement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien, le Père, c'est toujours le brave type un peu paumé, mais qui aime, qui aime, qui aime, qui attend le retour du fils prodigue, qui est prêt à donner sa vie, qui est inquiet, parce qu'il ne sait pas très bien où est parti son enfant. C'est ça le Père. Et lorsque Dieu est appelé Père, il ne s'agit pas pour nous de se le représenter comme une espèce de, encore une fois, de gendarme ou de je ne sais quoi, non. C'est celui qui nous aime. Et lorsque nous recevons la Bible comme le livre du Père, nous devons la recevoir comme le livre de quelqu'un qui nous aime et qui veut, à travers ce livre, exprimer toute sa sollicitude, tout son tourment, toute sa volonté de nous restaurer, de nous remettre dans cette relation vraie avec lui. Et puis également, qu'est-ce que ça signifie que de recevoir la Bible comme le livre du Père, sinon que nous rappeler que nous sommes des enfants ? Et être un enfant, c'est être à l'écoute. C'est être plein de curiosité. C'est être plein de fraîcheur et de naïveté. Est-ce que ce que souvent nous n'avons pas en face de la Bible, au contraire, une attitude de quelqu'un qui sait, qui veut savoir, une attitude de quelqu'un justement qui ne sait plus recevoir, qui ne sait plus écouter, mais qui veut parler, qui veut s'affirmer, qui, à la limite, voudrait enseigner Dieu. Alors, juste pour conclure ce premier point, la Bible, livre du Père, eh bien, ça veut dire que nous avons à recevoir la Bible non pas comme le livre qui est là pour refléter nos problèmes, nos questions, et essayer d'en faire une espèce de livre de recettes spirituelles, accommodé à je ne sais quelle sauce. La Bible, ce n'est pas le livre de nos questions. C'est d'abord le livre de la question du Père, de sa question qu'il nous adresse. M'aimes-tu ? Bon, deuxième point, la Bible, livre du Fils, livre de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? J'ai dit, n'est-ce pas, que se rappeler que c'est le livre du Père, c'est recevoir la Bible, l'écouter dans une relation. Mais c'est une relation que l'on peut imaginer, une relation entre deux solitudes, entre la solitude de Dieu et la solitude de l'homme. Or, qu'est-ce que m'apprend la Trinité ? Sinon que Dieu est en lui-même relation, que Dieu c'est l'amour du Père, du Fils en l'Esprit Saint. Et que donc lorsque je suis à travers la Bible dans cette relation-là, je suis le témoin de la relation du Père et du Fils. Ce que me raconte la Bible, c'est une histoire d'amour. Mais pas d'abord l'amour du Créateur envers sa créature, ce qui est tout à fait juste, mais d'abord l'amour éternel du Père et du Fils. Je suis, en face de la Bible, témoin de ce dialogue, témoin de cet amour. Et c'est parce que je suis témoin de cela que je peux moi-même vivre alors dans un dialogue et dans un amour. Vous savez que l'autre point fondamental de la doctrine chrétienne avec la Trinité, c'est ce qu'on appelle les deux natures du Christ, c'est-à-dire tout simplement de croire que Jésus-Christ est totalement Dieu et totalement homme. Jésus-Christ est totalement Dieu. Il est le Fils qui vit avec le Père et qui témoigne donc de cette relation et qui fait que moi je peux être dans une relation. Je peux vivre dans cette relation parce qu'elle m'est donnée, parce qu'elle m'est témoignée à travers l'Écriture. Ça veut donc dire que ma méditation de la Bible ne peut pas simplement se vivre comme un dialogue entre deux solitudes, mais qu'elle se vit dans un dialogue total. Tout simplement, je ne peux séparer ma méditation biblique de la prière. La prière, qu'est-ce que c'est ? C'est cette relation avec Dieu. Mais une relation qui se fonde justement sur le fait que je suis témoin dans l'Écriture de l'amour du Père et du Fils. Alors, oui, j'en reviens à quelque chose de très simple, de très banal, vous le savez très bien. Je ne peux pas lire la Bible en dehors d'une vie de prière. Mais cela veut dire que méditation de la Bible et vie de prière sont intimement liés. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre. Mon sujet, ce n'est pas la prière, mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est que, attention à ne pas faire souvent de la prière une espèce de solitude, de monologue, de bavardage, où nous parlons, et où Dieu, il essaie de lever la main pour dire « Je voudrais bien prendre la parole, moi aussi. » Oui, la prière, elle se vit en relation avec cette parole de Dieu qui nous est adressée. Voilà ce que m'apprend le fait que la Bible est le livre du Fils de Jésus-Christ, Dieu. Je suis dans une relation totale. Mais Jésus-Christ, c'est aussi un homme. Dieu s'est fait pleinement homme. Il a assumé toute notre humanité. Et la Bible, c'est bien sûr la parole de Dieu. C'est une parole divine et c'est en même temps une parole humaine. Et je ne dois pas avoir peur de cette humanité de la Bible. Je ne dois pas craindre de recevoir la Bible comme quelque chose de très concret. Je dirais d'abord de très matériel. N'est-ce pas, on fait trop souvent de la Bible une espèce de code intemporel, une espèce de vérité qui serait tombée comme cela, on ne sait trop comment. Mais la Bible, qu'est-ce que c'est que la Bible ? Oui, qu'est-ce que c'est, hein ? Là, on a toutes sortes de réponses. Les uns y voient un code moral, les autres y voient de l'histoire. Hein, l'histoire, c'est-à-dire le procès-verbal d'un certain nombre de faits. Eh bien, je dirais... Alors là, je prends des risques. Hein, je fais exprès, je prends des risques. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je vous connais, vous ne gênerez pas pour le dire. Bon, mais si vous voulez, pour moi, la Bible, c'est avant tout une histoire. C'est une histoire que l'on me raconte et c'est une histoire que j'ai à raconter. C'est ça. Et alors, c'est pourquoi... Un tas de problèmes me paraissent tout à fait secondaires et souvent très très mal posés. Savoir si, enfin toutes ces discussions, vous les connaissez, sur la vérité ou pas la vérité historique de tel ou tel passage de la Bible, je dirais que pour moi ça n'a aucune espèce d'importance. C'est intéressant, si c'est intéressant pour mieux comprendre, pour faire l'exégèse, etc. Mais fondamentalement ce n'est pas cela. Et j'en ai rien à faire, moi, de savoir si tel passage a été écrit en telle année ou en telle année. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que ce livre qui est là, c'est quelqu'un qui me raconte une histoire. Et que, comme je raconte des histoires à un enfant. Et je suis très sérieux en disant cela. Parce que c'est très sérieux les histoires que l'on raconte aux enfants. C'est très sérieux les histoires que on se transmettait dans les civilisations traditionnelles. Tous ces contes, toutes ces légendes que l'on a méprisées parce qu'on se croyait très malin avec notre rationalité, notre etc. Et puis maintenant on commence, alors que c'est en train de mourir, on commence à se rendre compte que c'est quelque chose d'extraordinaire, que c'est porteur d'une vérité formidable. Alors attention, hein, il ne s'agit pas du tout là d'entrer dans cette discussion, savoir, vous savez, il y a des gens qui vous disent il y a une part de légende dans la Bible, etc. C'est pas ça mon propos. Mon propos, c'est je suis dans la relation, c'est-à-dire dans quelqu'un qui est Dieu et qui me raconte une histoire. Et quand je raconte une histoire à quelqu'un, c'est pas simplement pour l'endormir. C'est parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai une vérité profonde à dire. Et on sait très bien, je prends toujours mon exemple, on sait très bien qu'à travers un certain nombre de récits dits folkloriques ou de récits de bonnes femmes, on sait très bien maintenant qu'il y a une vérité profonde qui se transmet, qui a voulu se transmettre. La Bible, c'est ce que je reçois et ce que j'ai à transmettre. Ce que Dieu me donne, mais ce que Dieu me donne parce qu'en même temps des hommes me la transmettent, des hommes me la racontent. Et cela veut dire tout simplement que j'ai peut-être aussi à méditer la Bible, pas simplement d'une manière cérébrale, mais que peut-être le début de la méditation de la Bible, eh bien, c'est d'aller partir en forêt, de prendre votre Bible et de déclamer la Bible, de la parler, parce que c'est quelque chose qui se parle avant toute chose. Oui, ça se parle. Et quand ça se parle, c'est beau. Moi, il y a toujours une chose qui m'a frappé, vous voyez, en tant que pasteur, hein, c'est que, avec les enfants de l'école biblique, ils ont toujours envie de lire la Bible. Monsieur, je peux lire. Et alors, nous faisons des cultes avec eux. Et ce qu'ils aiment, c'est lire la Bible au micro. Et ils ont une aisance extraordinaire, qui perdent d'ailleurs quand ils deviennent adolescents. Mais il y a une espèce d'aisance, une espèce de naturel extraordinaire, parce qu'ils sentent que justement ça doit se dire, et ça se dit, et ça se parle. Faites l'expérience de méditer votre Bible en la lisant à voix haute, en la lisant peut-être pour d'autres, et vous verrez, ça prend une toute autre dimension, parce que c'est une histoire qu'il faut entendre et qu'il faut dire. Et puis aussi, très, très concrètement, la Bible, c'est un écrit. Hein, parce que cette histoire que j'ai à transmettre avec mon oreille, avec ma bouche, que j'ai à déclamer, finalement, eh bien, j'ai besoin d'un support. Tout ce qui est oral a besoin du support de l'écrit. Si nous ne savons plus du tout quelle était la langue de nos ancêtres, les Gaulois, et quelle était leur culture, c'est bien parce que leur culture était uniquement orale. Et que là, bon, bah, nous avons perdu quelque chose de très important. Mais ce qu'il y a aussi, hein, de frappant, c'est que les hommes de la Bible ont mis par écrit, et l'écrit, c'est aussi quelque chose d'important, matériellement. Et je me demande, bien souvent, si notre méditation de la Bible, bon, c'est toute une réflexion, c'est toute une méditation, c'est toute une discussion, je suis d'accord là-dessus, je le fais, mais si on ne devrait pas commencer tout bêtement, lorsqu'on veut méditer un texte, prendre une feuille de papier et d'écrire, de calligraphier le texte. Là aussi, vous direz, ça y est, il est complètement... Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Mais non, mais... Vous voyez, la méditation de la Bible, c'est la méditation avec tout notre être, avec tout notre corps, avec notre voix, avec notre vue, avec... c'est important, le livre lui-même, la façon dont il est relié, la façon dont il est imprimé, dont il est présenté. Il y a quelque chose qui entre là aussi. Normalement, chaque juif devrait écrire la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, une fois dans sa vie, faire cet exercice. Et ça continue, hein. Vous savez que les parchemins de la Torah dans chaque synagogue doivent être écrits à la main. Et il y a des gens qui écrivent à la main la Bible. Bon, est-ce que nous devrions le faire ? Je ne sais pas. Mais nous avons peut-être perdu cette idée que la Bible est quelque chose de concret, c'est un effort. Les Juifs également, lorsqu'ils lisent la Bible, ils la mémorisent. Et là aussi, il y a tout un effort de mémorisation que nous avons totalement perdu. Et lorsqu'ils lisent, ils se balancent. Hein, vous avez peut-être vu des Juifs se balancer comme ça, hein, et qui lisent le texte hébreu en se balançant. Alors là, ça nous fait rigoler, nous aussi, hein, parce que nous sommes des gens raisonnables, nous, les Occidentaux. Hey, bien sûr. Mais je dirais que tout cela, tout ce que je viens de vous dire et qui peut paraître tout à fait second, c'est l'appropriation de la parole par tout notre être, par les gestes, par la vue, par l'ouïe. Et ça aussi, je crois que c'est tout l'aspect matériel, hein, de la Bible. La Bible est le livre du Fils qui est venu parmi nous et qui nous a rencontrés en tant qu'hommes dans notre humanité. Et notre humanité, ce n'est pas simplement la cérébralité, c'est tout, tout le reste. Bon, troisième point, la Bible, c'est aussi le livre du Saint-Esprit. Bon, là aussi, ça, c'est une banalité de le dire, hein. C'est une banalité, qu'est-ce que ça signifie ? Bon, ben, ça signifie que... D'abord, je ne peux pas recevoir cette Bible sans le Saint-Esprit. Il existe toutes sortes de systèmes de lecture. Vous savez, c'est très à la mode à l'heure actuelle. On parle des lectures plurielles de l'Écriture. Alors, vous avez tous les ismes possibles, imaginables, qui ne sont pas inintéressants d'ailleurs. Hein. Faut pas rejeter. Même des lectures psychanalytiques de la Bible, quelquefois, c'est intéressant. Hein. Le structuralisme aussi, j'y comprends rien. Je vais vous dire, là, je suis complètement bouché. J'en suis malheureux, hein, mais je comprends rien du tout. Mais je sais que ça peut apporter quelque chose, enfin, une certaine dimension du texte. Tout cela est très intéressant. Mais il ne faut jamais oublier que le seul herméneute, c'est-à-dire le seul qui puisse nous expliquer l'Écriture, c'est le Saint-Esprit. C'est l'action secrète du Saint-Esprit, comme le disait Calvin. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette histoire qui m'est racontée et que je dois raconter, que je dois retransmettre, eh bien, elle est une histoire racontable que parce qu'il y a l'Esprit, que parce que par l'Esprit, cette parole est actualisée dans ma vie, qu'elle prend une réalité dans mon existence. Alors bien sûr, c'est toujours très délicat de parler du Saint-Esprit parce que on peut mettre sous Saint-Esprit n'importe quoi. Et c'est là que je fais intervenir, moi, ce que j'appelle le trépied. Alors, je vais expliquer ce que j'appelle le trépied. Hein. Le trépied, pour moi, c'est un équilibre entre trois notions. L'intervention du Saint-Esprit, l'Église et l'Écriture. Alors, vous savez que si un trépied, vous enlevez un pied, vous cassez la figure. Hein. Mais alors, si vous avez aussi un pied beaucoup trop long par rapport aux deux autres, là aussi, vous cassez la figure. Bien, c'est exactement la même chose. Il doit y avoir un équilibre entre l'Écriture, l'Église, le Saint-Esprit. Je crois que l'Église est une des dimensions fondamentales de la vie chrétienne. Il ne faut jamais l'oublier. Parce que si on l'enlève, on se casse la figure. Parce que quel est le rôle de l'Église? C'est simplement la communauté. Ça veut dire que ma relation avec l'Écriture, je ne la vis pas tout seul. Sinon, j'invente n'importe quoi et je me dis, oh, j'ai la Bible, j'ai le Saint-Esprit, toc, ça y est. Hein. Non, attention. Heureusement qu'il y a les autres qui sont là pour me dire, toi, tu vas trop loin, ou tu racontes des bêtises, ou ça ne va pas. C'est ça, l'Église. Ce sont des frères qui me sont donnés pour me rappeler que je ne suis pas le bon Dieu, hein, et que je n'ai pas la vérité, et que je suis toujours à la recherche. Et que j'ai toujours à être corrigé. Mais en même temps, si je fais l'économie du Saint-Esprit, alors là, bien entendu, nous arrivons à quoi? Nous arrivons alors à une église qui veut dominer, à une église qui croit pouvoir tout régenter et qui croit détenir la vérité. Nous savons très bien ce que ça veut dire. Hein. Et puis en même temps, bon, si je veux faire l'économie de l'Écriture, là aussi, vous voyez où ça nous conduit. Les trois doivent être équilibrés. Et c'est là où l'action du Saint-Esprit est une action qui est vraie. Car le Saint-Esprit ne peut pas être en contradiction avec l'Écriture. Et le lieu où le Saint-Esprit parle, agit, ce lieu-là, ce n'est pas ma solitude. C'est ma relation avec l'autre, dans ce que j'appelle l'Église. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui est important ? Dans cette méditation que je veux avoir de l'Écriture, eh bien, je crois que ce qui est important, c'est d'abord de me dire que cet affrontement, cette relation avec l'Écriture est toujours un acte de foi, est toujours une aventure. Si j'arrive là avec mes idées toutes faites, c'est pas la peine. Je dois accepter que Dieu me raconte une histoire. Je dois accepter qu'il m'entraîne là où je ne sais, là où je n'ai pas forcément envie d'aller. Et puis, ce que j'ai également à redécouvrir sans cesse, c'est que je n'ai pas à me dire sans cesse, voyons, ouais, voilà, j'ai ma vie, et puis faut bien quand même que je place un peu la Bible là, dans mon existence. Alors qu'est-ce que je fais de la Bible ? N'est-ce pas comme si, au fond, je pars de ma vie, de mon existence, de mes problèmes ? C'est une réalité tout ça. Hein ? Et puis j'essaie de coincer la Bible là-dedans, j'essaie un petit peu de trouver des versets, de trouver des choses qui vont coller avec ce que je vis. Et non. Je n'ai pas à essayer de savoir comment la Bible peut coller avec mon existence, mais j'ai tout simplement à me dire comment est-ce que je me situe dans cette histoire qui m'est racontée. Quelle est ma place dans la Bible ? Où suis-je dans la Bible ? Où suis-je dans cette histoire ? Dans cette histoire où je suis à la fois celui qui écoute avec émerveillement, car il faut savoir s'émerveiller. Il faut aimer la Bible, il faut la trouver belle, la Bible. Et en même temps, il faut aussi que ce soit l'histoire que je raconte, que je dise, que j'aime dire à d'autres, que j'aime partager avec d'autres. Et dans toute cette histoire, qui est l'histoire de l'amour de Dieu pour les hommes, l'histoire de la longue marche de Dieu, où est-ce que je me situe ?